J'ai repris le texte de l'Évangile pour notre méditation dominicale. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et j'ai choisi comme thème surtout l'abnégation. Le symbole d'ictus, c'est-à-dire la marque du poisson qu'on retrouve dans plusieurs véhicules, forme de poisson, là. Et la deuxième symbole qui caractérise le christianisme après le symbole de la croix. Et les symboles sont très importants. Ce ne sont pas juste des apparences, mais ce sont des choses qui nous aident à se rappeler certaines choses et à comprendre aussi certaines choses. Le symbole de la croix montre le cœur de notre foi chrétienne. Tandis que l'ictus, ou le sigle du poisson, montre la mission que Dieu donne à son Église dans le monde entier. Et cette marque d'ictus, de poisson, vient justement de ce récit qu'on a aujourd'hui, où Jésus a tracé un avant-goût à ses disciples, si on peut le dire, ce qui les attend après la Pentecôte, quand il sera élevé vers son Père. Donc c'est déjà un programme que Jésus annonce à ses disciples, voilà ce qui vous attend dans quelques instants. Et à titre d'information, le symbole ictus, la marque du poisson, est devenu un code ou le signal pour tout rassemblement des chrétiens lors de la persécution. Quand ils se réunissaient dans des grottes pour prier, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore la radio, il n'y avait pas la télévision, on ne pouvait pas faire des annonces parce qu'ils étaient recherchés. Et donc, pour annoncer qu'il y aura réunion de prière, par exemple, dans tel foyer, on mettait la marque du poisson devant la porte. Et chacun savait ce que ça veut dire, que ce soir, il y aura un culte chez tel disciple ou tel apôtre. Donc, c'était aussi un symbole de résistance des premiers chrétiens face à la persécution. Donc, tous ces symboles sont très chargés de signification. Et il faut qu'on le sache avant qu'on le porte nous-mêmes, puisqu'aujourd'hui ça devient un peu tendance ou à la mode, comme on peut le dire. Luc ici fait un lien entre le récit de la pêche miraculeuse et Jésus qui était entouré d'une foule qui venait l'écouter. Il met en lien les deux récits. Et souvent quand on fait une prédication sur ce texte, on oublie toujours les versets 1 à 3. Souvent, on veut passer au verset 4. Et je vais relire ces trois versets. Au nom de Jésus. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Et ses disciples arrachaient. Pardon. Chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Souvent quand on fait une prédication ou une méditation ou une étude biblique sur ce texte, la plupart commencent à partir du verset 4. On veut aller tout de suite vers la pêche miraculeuse, mais il ne faut pas le séparer avec ces trois versets. Le sens de la pêche miraculeuse ne sera pas comprise si on le sépare avec cette petite introduction, mais qui oriente vraiment notre lecture et notre compréhension. Et d'ailleurs, l'auteur, me semble-t-il, montrait très bien le lien en mentionnant la barque de Pierre, il a mentionné la barque de Pierre qui était à la fois utilisée pour l'enseignement mais aussi après pour aller pêcher. Donc c'est à partir de cette barque que l'auteur fait, on va dire, le lien entre ces deux récits. Il est dit aussi que Jésus a demandé qu'on puisse reculer un peu la barque. Reculer un peu la barque afin que tout le monde puisse entendre. Afin que toute cette foule puisse voir Jésus. Et ensuite, il dit à Pierre, « Va un peu plus loin pour jeter ton filet. » Vous voyez le lien. Et vers la fin de notre péricope, au verset 10, Jésus recentre son dialogue avec Pierre, là où il veut en venir. Donc le projet de Jésus mis devant Pierre et les autres, c'est d'aller pêcher des âmes pour le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, je ne veux pas faire une interprétation allégorique en essayant de déchiffrer ce que ça veut dire aller en eau profonde. J'ai essayé de voir quelques commentaires là-dessus, mais personnellement, je n'aime pas faire des interprétations allégoriques pour ne pas dire ce que le texte ne dit pas. Mais ce qu'on peut dire, en revanche, c'est l'acceptation de Pierre de se mettre à la disposition du maître. Au départ, il a hésité en expliquant qu'il avait déjà tout fait. « J'ai tout fait pendant toute la nuit. J'ai tout fait ce que je pouvais faire. » Mais après, il s'est ressaisi en disant « Mais puisque tu me le dis de le faire, je jetterai les filets. » On voit bien qu'il n'était pas si chaud que ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait eu une influence du maître, mais puisque tu me le dis, je le jetterai quand même. Sans conviction, mais il a accepté ce que Jésus lui a dit. Et le message que nous donne ce texte est clair. Ne mélangeons pas les choses dans notre mission d'évangélisation, dans notre mission de faire des disciples le monde entier. Notre part s'arrête juste à l'exécution de l'ordre qui a été donné. Et c'est ce que j'ai dit dans l'éditorial de notre journal paroissial pour ce mois de février. Ma part, c'est d'exécuter l'ordre. Je ne fais que jeter le filet là où le Seigneur me donne l'ordre. Et le reste, c'est à lui de faire le boulot, si on peut le dire. C'est à lui d'amener les poissons dans ses filets. Ce n'était pas le rôle de Pierre. Et dans le dialogue entre Jésus et Pierre, nous pouvons voir la confrontation de la vie d'un expert en pêche. Pierre, quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Depuis de longues dates, il ne faisait que ça. Et à côté, la vie d'un rabbin qui parle sur la pêche. Donc, qui est le plus fiable? Est-ce qu'un rabbin va apprendre son métier à un pêcheur, ce qu'il doit faire? Un rabbin est censé enseigner dans les synagogues. Et donc, il n'a pas un avis à donner. Mais là, Pierre a dû tout laisser, ses expériences, ses connaissances, ses années qu'il a passées à pêcher. Il a tout abandonné, ce qu'il croyait connaître, ce qu'il croyait savoir, et il s'est remis entre les mains de son maître. Je ne dis pas que l'expérience est inutile, mais dans l'œuvre missionnaire, il ne faut jamais se fier à sa propre capacité ou à son savoir-faire. Notre part, et je le répète encore, c'est d'exécuter l'ordre qu'il nous donne. Et c'est justement là que commence la réponse à l'appel de Dieu. Lorsque nous posons la question « Suis-je capable de le faire ? » Ai-je les épaules assez solides pour porter cette charge que le Seigneur m'a donnée? C'est à partir du moment qu'on se pose cette question que nous serons conscients de nos limites et de notre faiblesse, et que c'est là que nous ouvrons à l'intervention divine. Mais pour ceux qui se disent « je sais, je suis capable, je » comme Pierre l'a fait d'ailleurs, alors il sera difficile pour cette personne de laisser agir le Seigneur. Le verset 11 est très interpellant, je vais le relire. Il dit « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Et encore une fois, je vais le dire, redire, il faut faire très attention dans l'interprétation en pensant qu'il faudrait peut-être qu'on quitte nos travails ou nos occupations quotidiennes pour servir l'Éternel. Non, ce n'est pas ça le sens. Ici, c'est un cas spécifique. C'était le moment où Jésus avait choisi ses disciples pour former les apôtres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'abnégation requise à tous ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. Laissez tout. C'est un peu comme Pierre. Il a tout abandonné. Il dit, voilà, ok, j'accomplis ce que tu m'as dit. Par définition, l'abnégation est un renoncement, un sacrifice volontaire pour l'Évangile. Et c'est ça ce que ça veut dire porter sa croix, chers frères et sœurs. Et c'est encore Luc qui le dit dans Luc chapitre 9, verset 23. Voilà ce que Jésus dit. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Alors donner sa vie à Christ n'est pas simplement une histoire de prière ou une histoire de discours en criant que j'appartiens au Christ, que je suis chrétien. C'est pas ça être chrétien. C'est pas ça suivre le Christ. Mais c'est d'être prêt à aller, à donner sa vie et à tout abandonner pour lui. Pas nécessairement en se tuant comme dans d'autres pays où il y a la persécution qui est vraiment physique. Mais donner sa vie à Christ, c'est aussi renoncer à soi-même. Renoncer à son honneur. Ce qui touche sa propre personne afin que la mission de Jésus nous a confié soit accompli. Cette mission ne pourra pas se faire tant que nous sommes encore centrés sur nous-mêmes. Oui, je sais que ce n'est pas facile. C'est une croix. La croix, c'est dire non à son ego. La croix, c'est dire non à sa fierté. La croix, ça fait mal. La croix, ça bouscule notre estime de soi. Et là, je profite à faire un petit cours de catéchisme. La croix, ce n'est pas les maladies. Souvent, on dit, oui, chacun porte sa croix en pensant aux maladies. Non, ça n'a rien à voir avec les maladies. La croix, ce ne sont pas les problèmes quotidiens que nous devons faire face, que sur le plan financier ou émotionnel ou autre chose, ou sur le plan professionnel. C'est pas ça la croix. Pourquoi? Parce que la croix est spécifiquement à ceux qui se prononcent chrétiens. Mais tout le monde a des problèmes, même les non-chrétiens. Or, l'apôtre Pierre l'a dit clairement dans son épître, que seuls les chrétiens portent leur croix. Seuls. Donc la croix n'est pas synonyme de maladie, n'est pas synonyme de manque financier. La croix, c'est comme Jésus a dit dans Luc, il doit se renier lui-même chaque jour, pas s'il le peut, ou de temps en temps, ou parfois, chaque jour, c'est-à-dire chaque minute, chaque seconde, à chaque fois que tu respires, tu dois te renoncer si tu veux que le royaume de Dieu soit proclamé. Alors cette croix, elle est lourde. Elle est très lourde. Parce que qui veut accepter cette condition? Et pour terminer cette méditation, je vais vous lire quelques versets qui résument bien ce que nous avons dit dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 13 à 16. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous. Car l'esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. C'est un honneur de porter le nom du Christ, chrétien. C'est un honneur parce que nous avons part à sa croix. Et la croix du Christ, voilà ce qu'il avait dit avant de mourir, que ta volonté soit faite. Amen.